Dieu appelle son peuple à la sanctification. Agée, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 19. Et nous allons entendre ces 10 versets avec la voix magnifique d'Antoine, qui va lire pour nous, s'il vous plaît, Antoine. Merci. Au premier message que je vous avais apporté, nous avons vu que le peuple d'Israël, environ une cinquantaine, 50 000 juifs, ont quitté les îles babyloniennes pour retourner à Jérusalem en 538 avant Jésus-Christ. Ils avaient comme objectif de venir à Jérusalem et rebâtir les temples, la maison du Seigneur. Ils ont bien démarré la reconstruction, mais ils ont eu beaucoup de soucis politiques et des soucis aussi avec le peuple de la région, les Samaritains. Alors, à cause de cela, l'œuvre, le travail, ils sont un peu arrêtés. Voilà, voilà. Le peuple d'Israël a laissé, à cause de tout ça, ils ont arrêté ils ont laissé à côté la reconstruction du temple. Ils ont commencé à s'occuper de leurs affaires personnelles. La priorité principale maintenant, c'est ma maison. La priorité principale maintenant, c'est mon travail. C'est ma famille. C'est mon business. C'est mon commerce. C'est ça que je dois faire. Alors, pendant 16 ans, la reconstruction de la maison de l'Éternel, elle était délaissée. Dieu, par intermédiaire du prophète Agée, il exhorte le peuple. Le peuple, ils ont bien entendu la voix du Seigneur, se sont repentis de leur désobéissance, ils sont mis au travail. Allez, on va bosser ensemble, on va rebâtir la maison du Seigneur. Ils ont commencé le travail. Après 16 ans. Le deuxième message que je vous avais apporté parle du temple, que le temple sera plus grand, glorieux que le premier. Le peuple d'Israël a regardé trop le passé. Regardez le passé, quand on a bâti la première fois le temple, il était magnifique, lumineux, d'or, d'argent. C'était beau, c'était lumineux, hein, c'était magnifique. Mais maintenant, regarde qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ils étaient un peu découragés. Voilà. Et donc, c'est là que les prophètes ont parlé pour la deuxième fois de la part du Seigneur en disant, arrêtez de regarder au passé, mais il faut regarder le présent et l'avenir. Parce que la deuxième maison, le deuxième temple du Seigneur sera plus glorieux que celui-ci, ce qu'il y avait avant. Il parlait de Jésus, parce que c'est que Jésus qui donne la paix dans les temples du Seigneur. Donc, on a parlé de ça. C'est que Jésus qui pouvait vraiment. Et là, le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète, Dieu voudrait restaurer le cœur des habitants de Jérusalem qui étaient là-bas. Donc, ils étaient restaurés. Ils ont dit, allez, on va à fond, on continue le travail du Seigneur. Et là, aujourd'hui, je parle sous le thème de la sanctification. Dieu appelle son peuple à la sanctification. Et on vient de lire ici au verset 10, le 24e jour du 9e mois. Cela veut dire que ça fait 3 mois après la première prophétie que Agée a donnée. Qu'il a fait 3 mois après, donc il a parlé, cela veut dire 18 décembre de 1520 avant Jésus-Christ. Vous savez qui fait la précision, c'est ça qui dit les commentaires. Voilà. Le troisième message du prophète Agée, que je voudrais préciser, c'était qu'il était un prophète pendant que 4 mois comme prophète. Il a prophétisé pendant 4 mois seulement. Donc, il n'avait pas assez de temps comme Esaïe, comme Jérémie, mais il n'avait que 4 mois de prophète pour parler au Seigneur, parler de la part du Seigneur, pour exhorter le peuple. Il avait comme mission vraiment de donner 4 messages et pendant les temps précis, il avait les dates correctes et toutes les choses qu'il a fait. Du verset 11 au verset 13 dans ce texte, le prophète a posé des questions aux sacrificateurs et les spécialistes de la loi. Et la première question qu'il a posée aux sacrificateurs concerne à une personne qui porte un morceau de chair consacré dans les plis de son vêtement. Si ce tissu entre le contact avec la nourriture, consacrerait-il automatiquement ce qu'il a touché? Selon la loi de Moïse, quand les sacrificateurs, quand les gens qui avaient du péché, ils devaient aller auprès du sacrificateur pour apporter les animaux, ils vont les tuer, ils vont consacrer au Seigneur. Une partie sera consacrée au Seigneur et une autre partie c'était à la famille, c'était comme la dîme. C'était les choses pour les sacrificateurs manger avec les autres sacrificateurs, mais aussi avec la famille. Et là, le prophète lui dit, cette viande qui est consacrée à vous, sacrificateur, si vous le prenez, si vous enrobez là dans votre robe, vous le portez comme ça, est-ce que votre robe elle est sainte? Sainte? Ils ont dit oui. Ils disent, ah. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Porter de la viande, que. Voilà. C'était ça qu'il lui a posé cette question, parce que selon la loi de Moïse, vraiment, là, il sera sanctifié dans ce sens. Attends, je suis bien là. La réponse est non. Oui. C'est pas la même question. Je pense que je me suis trompé là. Ouais. Si tu suis en contact, voilà, selon la loi, mais est-ce que les robes de sacrificateur avaient le pouvoir de sanctifier les autres aliments? Oui. La question, oui, pour sanctifier l'aliment, c'est oui, mais pour les sanctifier les autres aliments, les pains, l'huile, les mets, les autres aliments. Est-ce que c'est possible que la robe, elle va sanctifier les autres aliments? Les sacrificateurs ont dit non. Non. Pas du tout. Parce que la viande qui est consacrée, elle peut sanctifier, oui, consacrer les vêtements, mais pas les autres aliments. Mais la question est, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela ça veut dire? Mais il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Cela veut dire que la sainteté ne se transmet pas. Que la sainteté ne se transmet que par contact direct. La sainteté, c'est que par les contacts directs. Par conséquent, côtoyer quelqu'un qui est en contact avec Dieu ne rend pas saint la personne. Seul Dieu rend saint une personne par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Si moi je cherche la sainteté et quelqu'un qui vit dans la vie des péchés, il veut me côtoyer, je vais côtoyer Edson. Bon, entre guillemets, moi ça. Hein? Ah, peut-être je vais devenir saint aussi. Non, pas du tout. Parce que la sainteté ne se transmet pas, mais elle est individuelle. Elle est individuelle. Individuelle. Elle ne se transmet pas. Quelqu'un doit apporter la sainteté du Seigneur dans sa vie. Le mot saint signifie séparer, retrancher. Ça veut dire qu'il est mis à part, être différent. La nation d'Israël, Israël était mise à part par Dieu. Parce que je vous ai choisi, peuple d'Israël. Je vous ai mis à part. Vous êtes une nation sainte maintenant. Voilà. Exode chapitre 19, verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ok. Dieu les a appelés. Dieu a mis à part. Ils ont été distants des autres pays. Ils avaient un privilège d'être un peuple de Dieu, mais cela, ça veut dire quelque chose aussi, qu'ils devaient mener une vie sainte. Je vous choisis, oui, mais mener une vie sainte. C'est clair. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, la sainteté, elle n'a pas une option. Il n'a pas une option si j'appartiens à Dieu. Hébreux, chapitre 12, versets 14 et 15, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est présente, elle est là pour toi et pour moi. Mais dans cette grâce qui pardonne nos péchés, elle nous demande quelque chose, soit différent. Sois saint, Sois mon peuple, sois mon enfant, mais sois différent. Sois différent, toi. Toi. Chacun doit mener lui-même une vie sainte en Jésus-Christ. Il doit faire preuve d'un repentir et d'une obéissance véritable qui vient d'un cœur, qui vient de mon cœur. La deuxième question que le prophète il va poser au sacrificateur concerne un cadavre. Si une personne qui a touché un cadavre peut transmettre cette impureté à d'autres choses, selon la loi de Moïse, une personne qui touchait un cadavre devenait sale, impure. Pendant 7 jours, et elle devait être séparée et passer pour un acte, un rituel de purification pendant 7 jours, et puis là, elles seront purifiées, pardonnées. C'était ça la loi. Donc, on ne pouvait pas toucher un cadavre. Mais la réponse des sacrificateurs à cette question, c'est oui, si quelqu'un touche un cadavre, oui, ils seront impurs, parce que c'est contagieux. Alors, la sainteté ou la pureté ne peut pas être transmise. Par contre, le péché, il est dangereux. Le péché, il est destructeur. Les péchés. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que nous avons ici des pommes, un panier de pommes pourries. Et je prends une pomme qui est bonne, et je vais la placer au milieu de ce panier qui est pourri. Est-ce que cette pomme qui est bonne, elle va faire un résultat positif dans ce panier? Non. Qu'est-ce que va devenir le panier? Qu'est-ce que les autres pommes vont faire? Elles vont pourrir l'autre. C'est toujours comme ça. Vous voyez? Une autre chose, peut-être vous avez un ami proche de vous qui vous l'aimez beaucoup, il est malade chez lui. Il a la toux, il a la grippe, il a la fièvre. Et tu es en bonne santé. Moi, je suis en bonne santé. Je vais aller rendre visite à mon ami. Je vais l'apporter la bonne santé. Est-ce que ça va marcher? Non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est nous qui allons tomber malade. C'est ça le péché. Il est dangereux. C'est ça qu'elle est en train de nous montrer ici. Le péché, il est dangereux. Il nous éloigne de la présence de Dieu. Il éteint notre foi. Il nous empêche d'avancer. Il nous pourrit. Il pourrit notre vie. Il nous vole la paix de notre esprit. Il nous amène à l'enfer. Par contre, la sainteté nous approche de Dieu, nous rend sensibles à écouter la voix du Saint-Esprit, nous conduit dans le bon chemin. Elle nous rend heureux, nous guide à des richesses éternelles de la parole de Dieu et elle nous amène à la vie éternelle. En regardant encore ici le verset 14, nous pouvons voir aussi que Dieu fait remarquer aux Israélites que leur désobéissance et leur mauvaise priorité ont rendu impurs, qu'ils se sont rendus impurs aux yeux de Dieu. Cela veut dire que leur désobéissance, Dieu les regardait pas de bonnes choses. Les temples, il était en ruine à Jérusalem. C'était comme un cadavre dans la ville sainte. Imaginez, si les cadavres, si quelqu'un touchait, c'est déjà mauvais. Imaginez la ville sainte, il y avait un cadavre qui était là-bas. Pour lui, c'était comme ça. C'était comme un cadavre qui était au milieu de la ville sainte, qu'ils étaient en train de construire, les temples. C'était un peu comme ça. Les offrandes que le peuple disait, on va amener les offrandes à la maison du Seigneur, au autel du Seigneur. On va les amener. On va faire correctement. Mais aux yeux de Dieu, tout ça était impur, c'était sale. Parce que ils étaient dans la désobéissance. Ils étaient dans le péché. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, parfois il y a des gens qui pensent qu'ils vivent une vie n'importe quoi dehors de l'église. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Mais parfois ils disent, bon, je viens à l'église aujourd'hui. Je viens chercher le Seigneur. Il amène des dons, il donne des dons à l'église. Oh, je fais un don aussi, ça peut aider l'église. Je fais. Mais sa vie ne dit pas correctement qu'il y a une vie sainte, une vie qui plaît le Seigneur. Et après, bon, on va aller donner les offrandes au Seigneur. C'est ça que le peuple est en train de faire. On veut aller faire des offrandes. On va aller. On va. Mais la ruine du temple, elle était toujours là. Et si on regarde vraiment l'objectif principal du peuple, c'était de revenir à Jérusalem et rebâtir la maison du Seigneur. Ils ont bien commencé, mais après, à cause de leur désobéissance, ils ont changé de priorité, ils ont laissé de côté. Oui, mais nous sommes en train d'organiser les fêtes. On a les fêtes nationales. On va fêter quand même. On se rappelle des choses que Dieu a fait. Ouais. On amène des animaux qui sont bien, ils sont bien, ils n'ont pas de défauts. Vous voyez? Ce sont des choses qu'ils faisaient qui ont dans leur tête que c'était bien. Mais en fait, aux yeux du Seigneur, c'était les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'obéissance du Seigneur. Ils n'étaient pas. Mais j'essaie, j'amène des offrandes, j'amène des animaux, je viens à la fête, je participe, tout ça correctement. Oui, mais aux yeux du Seigneur, il y a quelque chose que ça ne va pas. Parfois, c'est la même chose avec nous, peut-être. On vient à l'église, c'est bien, c'est correct. Mais comment ça passe ma vie hors de l'église? Et je dis souvent ici qu'à l'église, c'est trop facile d'être chrétien. C'est trop facile d'être chrétien ici. Mais c'est dans la semaine. Ma vie de sainteté, ma vie, comment que je marche avec le Seigneur, comment je suis avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon patron, avec mon prof, avec mes amis. Est-ce que ma vie, c'est une vie de sainteté? Est-ce que je suis différent ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit, il vraiment habite en moi et je fais la différence? Est-ce que je donne un bon témoignage? Mais je viens à l'église dimanche matin. Je laisse la Bible ouverte là-bas chez moi à la maison. Ça vaut rien. Ça vaut rien, mon frère et ma sœur. C'est ton cœur et c'est mon cœur qui doit être dans le chemin du Seigneur, dans la voie du Seigneur, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Avec leurs attitudes, et selon les textes, la Bible dit qu'ils ne méritaient même pas être appelés peuple de Dieu. Dieu, par l'intermédiaire d'Agir, dit, je ne vous appelle même pas de peuple, mon peuple, même pas de ma nation, parce que vous êtes dans les péchés, dans la désobéissance. Je rappelle ce peuple. En Samuel, chapitre 15, verset 22, il dit, le Seigneur aime-t-il autant de sacrifices d'animaux que de l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes le plus grasse. C'est l'obéissance, c'est pas les sacrifices. C'est l'obéissance, c'est pas les offrandes, les dons. C'est l'obéissance. Jérémie, chapitre 7, versets 21 et 23, jusqu'au 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices. Et mangez la chair, car je n'ai point parlé avec vous, Père, et je ne leur ai donné aucun ordre. Les jours où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. J'ai mal lu là, mais excusez-moi. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez
heureux.
Dieu prend plaisir en bénir son peuple, mais chacun a la responsabilité de vivre une vie selon le commandement de l'Éternel. Voulez-vous être heureux? Alors, écoutez et marchez dans la voie du Seigneur. Vous devez écouter et marcher. Écouter et ne pas marcher dans la voie du Seigneur ne va pas vous rendre heureux. Écouter et ne pas marcher dans la voie du Seigneur ne va pas vous rendre saint, ne va pas vous sauver, ne va pas vous libérer de l'esclavage du péché. Jamais. Mais marcher dans la voie du Seigneur, c'est obéir les commandements du Seigneur. C'est de pratiquer les enseignements de la Bible. Vivre une manière digne de l'Évangile. Être gouverné par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Chercher la voie du Seigneur. Marcher dans la voie. Pas écouter. Jacques, il nous dit déjà, si tu écoutes mais tu ne pratiques pas, ça ne vaut rien. Parce qu'il y a des gens qui sont sympathisants pour la Bible. J'aime la Bible, elle donne de bonnes choses. J'aime ça. Mais pour pratiquer, je ne veux pas. C'est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et écoutent la parole de Dieu. Ça me fait du bien. Mais après, il ne fait rien. Sa vie n'importe rien de l'Évangile. Dans son travail, à l'école, à la fac, au lycée, chez les voisins. C'est ça. Vous le savez très bien que j'étais joueur, footballeur, deuxième division au Brésil. J'avais 18 ans, c'était un âge que j'étais plein de vigueur. Les physiques étaient bien. Bon, presque pareil qu'aujourd'hui. On marchait bien sur la route. On allait pour l'entraînement où on habitait, tous les joueurs, on allait, ça faisait même pas 500 mètres. Donc je mettais déjà des shorts bien, vous avez des shorts bien collés pour montrer le physique. Les habits un peu comme ça pour rendre bien comme ça. On arrivait au stade, faisait l'entraînement, matin et après-midi, on s'est préparé pour le week-end, pour les maths. Le week-end, après les maths, c'est quoi? C'est la fête. On sortait avec les filles, on faisait n'importe quoi. Bon, voilà, on buvait assez, voilà. Et plein d'autres sortaient avec d'autres hommes, d'autres sortaient avec des filles, d'autres faisaient, voilà, des mariés, plein de choses. Mais les jours que j'ai connu le Seigneur a fait la différence. C'était pas du tout facile pour changer ma vie. C'était pas du tout facile, parce que toujours, il y avait des filles qui venaient nombreux, quoi, nous chercher. Il y avait des choses, le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pitié de moi. J'ai prié, j'étais dit que je devais jeûner, une fois par semaine, je jeûnais. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, je dois mortifier ma chair, je dois sacrifier, mais là-bas, sous la croix, j'ai cherché la sanctification dans ma vie. Parce que j'étais mort spirituellement, je suis revenu en Christ. C'est le changement séparé. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Tu sais, après qu'il a fait, il dit, bon, maintenant tu arrêtes de jouer le foot deuxième division. Il m'a enlevé de ça. Je n'étais pas du tout content, mais après, il m'a bien parlé à mon cœur. Tu vas jouer au niveau national, régional, mais pas au niveau deuxième division maintenant, parce que j'ai une autre chose pour toi. Je ne savais pas du tout au moment, mais après, quelques années après, Dieu a bien parlé à mon cœur. Mais seulement pour dire, mon frère, ma sœur, la différence du Saint-Esprit, de la vie de Dieu dans notre vie, que c'est important. Et je sais que vous aussi, plusieurs d'entre nous ici, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous donnez des témoignages, merci Seigneur, mais si tu n'as pas encore fait, fais le plus vite possible. Parce que Dieu, il veut agir dans ta vie. Du verset 15 jusqu'au verset 18, le prophète invite à nouveau le peuple à réfléchir attentivement et comparer la situation que vous avez là-bas. Maintenant, le peuple, regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous pendant toutes ces 16 années que vous avez laissé de reconstruire le temple? Qu'est-ce qui s'est passé? Les grêles qui sont venues la nuit, on n'avait pas de... Il n'y a rien qui s'est passé. On plantait, on cultivait, mais il n'y avait rien. On n'avait pas de l'argent dans la poche, on n'avait pas assez à manger, on n'avait rien, on n'avait pas du vin, on n'avait pas de, voilà, des figues. Il n'y avait rien. Le prophète a dit, oui, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé avec vous là-bas au passé. Mais à partir de maintenant, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Le péché, il entraîne des malédictions et des disciplines de la part de Dieu. Dieu a touché même, il a envoyé des catastrophes naturelles, de la grêle, des choses qui s'est passées, sécheresse, afin que le peuple puisse vraiment se rappeler. Et là, le Seigneur, il dit, les péchés, vraiment, j'ai touché toutes ces choses-là afin que vous aussi, dans votre poche, il n'y avait rien. Mais maintenant, mais les jours que le peuple a été touché par la prédication du prophète, il y a des choses qui ont changé. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont tourné leur regard vers le Seigneur et les choses ont changé. Refuser de se repentir est le pire de tous les péchés, car il élimine tout l'espoir de pardon et de salut. Par contre, la repentance fait la différence et une nouvelle étape commence. Cette fois ici, c'est le Seigneur qui prend l'affaire, c'est lui qui gouverne notre vie, la repentance. Dieu, il veut nous bénir, mais notre péché et notre désobéissance se mettent en travers de la route. Il lui faut alors parfois nous faire de la peine pour nous rappeler qu'il doit être les premières dans notre vie. Qu'il doit être les premières. Au verset 19, la promesse. En tout ça, il y a la promesse du Seigneur. Bien à la fin, il lui dit, mais de ces jours, je reprendrai ma bénédiction. L'obéissance fidèle dans la poursuite de la reconstruction du temple lui permettrait d'expérimenter la bénédiction de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu attire des bénédictions physiques, matérielles et spirituelles. Je ne suis pas de la théologie de la prospérité, pas du tout. Mais nous savons que quand nous marchons avec le Seigneur en obéissance, il nous bénit matériellement, physiquement et spirituellement. Il est fidèle. Il dit maintenant, le peuple, regardez qu'est-ce qui va passer dans vos vies. Maintenant, quelque chose va se passer. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez la volonté de Dieu, et toutes autres choses, les vêtements, les travails, les choses à manger, Dieu va envoyer, va donner. Pas tout que tu veux, mais ce que tu as besoin. Ça, c'est clair. Si Dieu donne tout qu'on veut, on est déjà perdu. Dieu, non, pour toi, là, je ne te donne pas ça. Il sait vraiment qu'est-ce que nous avons besoin. Pour la conclusion, selon Ésaïe, chapitre 6, versets 14 à 15 et 16, nous pouvons voir que le temple a été achevé avec succès au mois de février, qui c'était le mois de Hadar de 2015, plutôt de 515 avant Jésus-Christ, soit 21 ans après le commencement du travail, 21 ans après qu'ils ont commencé le travail, qu'ils ont achevé la reconstruction de la maison de Dieu. Cela veut dire aussi 4 ans et demi après la première prophétie du prophète Agé. 4 ans et demi de boulot qu'ils ont allé bosser, bosser encore. Et ces jours-là qu'ils ont achevé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple a célébré avec joie l'inauguration du nouveau temple qui était rebâti. Et la Bible dit en Luc chapitre 15, verset 10, de même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'y repent. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'y repent. Ils étaient vraiment contents pour les temples parce qu'ils représentaient la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est dans notre cœur, dans notre vie, par le Saint-Esprit. Mais quand nous repentons de nos péchés, nous demandons à Dieu d'habiter dans notre vie, il y a une fête. Les anges sont en fête. Et nous, les Brésiliens, on aime les fêtes. Et on imagine que la fête pour un pécheur, c'est magnifique avec Dieu. Si tu n'as pas encore fait, fais-le. Donne ta vie, donne ton cœur à Jésus, parce qu'il est ton sauveur. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Merci pour ta parole, c'est elle qui nous parle, c'est ton esprit qui nous parle. Seigneur, je t'ai dit que j'étais vraiment très, très édifié par ta parole, Seigneur, pendant tout ce temps que j'ai pu étudier, partager. Je suis vraiment édifié, Seigneur Dieu. Merci. Et en même temps, Seigneur Dieu, je m'ai mis à penser où je suis avec toi, avec ma vie, ma sainteté aussi. Seigneur, que tu puisses m'aider tous les jours, Seigneur Dieu, à être fidèle à toi. Que tu puisses aider aussi mes frères et sœurs qui sont là, qui puissent être fidèles à toi. Comment je suis en train de parler? Comment je suis en train de me vestir, mes vêtements? Comment je suis en train de voir les choses? Qu'est-ce que je suis en train de voir sur mon portable, à la télé? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter, Seigneur Dieu? Comment c'est mon comportement, Seigneur Dieu, avec mes amis? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui porte l'évangile de Christ? Est-ce que c'est digne, Seigneur? Seigneur, s'il y a quelque chose que nous devons changer, fais-le, Seigneur, avec ton esprit. Même si nous devons avoir de la peine pour quelque chose, fais-le, Seigneur. Parce que le plus important, c'est d'être avec toi, d'être un témoin fidèle, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis, Seigneur, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Merci.
Merci au Seigneur pour ce partage. Et je reprends ce dernier verset de ce passage qu'on a lu dans Agé. À partir de ce jour, je répandrai ma bénédiction sur vous. Et je crois que c'est aussi une promesse pour chacun de nous, en ce dimanche, que nous sommes venus ce matin, nous avons été invités à venir, nous avons été invités à partager ce temps, et maintenant, eh bien, en retour, c'est Dieu qui nous bénit, et que toute cette semaine, nous puissions nous souvenir qu'il nous a pardonné et que nous avons à revenir à lui à chaque fois que nous nous en éloignons, que cette force de gravitation qu'il nous permet puisse aussi nous réunir toute cette semaine autour de sa personne pour recevoir sa bénédiction.